Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les pénitents ont le droit de trouver dans les prêtres des serviteurs du pardon de Dieu. L'Église n'est pas la propriétaire du pouvoir des clés, mais la servante du ministère de la miséricorde. C'est le cœur de la catéchèse développée par le pape François ce mercredi à l'audience générale. Le pape François qui va par ailleurs rendre hommage ce jeudi à la vie contemplative. Dans ce magazine, nous parlerons également des enfants victimes de la pauvreté et de la violence, y compris en France. Vous entendrez par ailleurs un jésuite libanais, alors que le Vatican accueille ces jours-ci toutes les grandes figures des églises catholiques orientales dans un contexte de crainte pour le sort des chrétiens du Moyen-Orient. Le pape François demande aux fidèles de soutenir spirituellement et matériellement les communautés religieuses contemplatives afin qu'elles puissent accomplir leur importante mission. Le souverain pontife a lancé un appel en ce sens ce mercredi à la veille de la journée annuelle de prière pour les cloîtrés. Il s'adressait aux quelques 40 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre pour l'audience générale. Le pape François invite à l'action de grâce pour le don de toutes ces personnes qui, dans les monastères et les ermitages, se consacrent à Dieu dans la prière, la contemplation, le silence et le travail. Pour bien marquer l'importance qu'il attache au ministère et au témoignage des contemplatifs, le Saint-Père visitera lui-même un monastère féminin jeudi, en début de soirée. Hélène Destombes.
Le couvent des bénédictines Camaldul est situé sur la colline romaine de l'Aventin. Il accueille une vingtaine de contemplatives. C'est là que le pape François célébrera les vêpres, selon la règle Camaldul, des vêpres qui seront suivies de l'adoration eucharistique. La vie de ce couvent a été profondément marquée par le témoignage exceptionnel d'une religieuse contemplative italo-américaine, sœur Nazarena Crota, qui vécut recluse dans ses murs. Le 21 novembre coïncide avec l'anniversaire de son entrée au couvent. La journée de prière pour les monastères cloîtrés, célébrée le 21 novembre, a été instituée en 1953 par Pie XII, auquel sœur Nazarena avait rendu visite. Pendant 44 ans, cette recluse contemporaine a vécu dans une étroite cellule solitaire. Présence silencieuse, en prière continuelle, elle avait choisi la radicalité du désert. Ses journées étaient jalonnées par les offices, la Lectio Divina et la prière. Son travail consistait à confectionner pour toutes les paroisses d'Italie les palmes utilisées le dimanche des rameaux. En visite au Monial Camaldul, en 1966, le pape Paul VI se rendit à la cellule de Nazarena pour la bénir et lui confier l'église dans ses années conciliaires. 13 ans plus tard, quelques mois après son élection, Jean-Paul II visita lui aussi ce monastère après avoir ouvert le carême sur l'Aventin et il demanda à Nazarena de prier pour l'Église, pour le monde et pour lui. Le pape François ne la rencontrera pas. Sœur Nazarena est morte en 1990 à l'âge de 82 ans, mais il recevra les lettres qu'elle écrivait à son conseiller spirituel.
La visite du pape François se situe, elle, dans le cadre de l'année de la foi qui touche à sa fin. Et à l'audience générale, dans sa catéchèse ce mercredi, le pape Bergoglio est revenu sur la miséricorde et sur la confession qui ne doit pas, selon lui, être vécue de manière traumatisante. Il a exhorté à valoriser le sacrement de la réconciliation comme un don, un remède, une protection, la certitude que Dieu nous a pardonné. Olivier Tosserie.
La confession est un sacrement de moins en moins pratiqué. Le pape exhorte les catholiques à redécouvrir la joie du pardon. Mais la rémission des péchés, avertit François, doit avoir lieu dans l'Église et au nom de l'Église. Trop de personnes ne comprennent pas la dimension ecclésiale du pardon, car les chrétiens eux-mêmes ne sont pas à l'abri de l'individualisme et du subjectivisme dominant. Certains affirment ainsi qu'ils préfèrent se confesser directement à Dieu. Mais Jésus nous appelle à vivre la réconciliation dans sa dimension ecclésiale et communautaire. C'est lui qui a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, appelé dans la Bible « pouvoir des clés ». Dieu a voulu que ceux qui font partie de l'Église reçoivent le pardon par l'intermédiaire des ministres de la communauté. Le pape a reconnu que certains ont honte de raconter leurs péchés, mais, a-t-il lancé sous les applaudissements, il vaut mieux rougir une fois que jaunir mille fois.
Una volta rosso e non mille volte giallo.
Mais le pape François a tenu aussi à sermonner fermement les confesseurs qui manquent de bienveillance, de miséricorde et de douceur et qui maltraitent les pénitents. Il est préférable que de tels prêtres s'abstiennent d'administrer ce sacrement jusqu'à ce qu'il se corrige, car ce ministère est délicat. Il exige un cœur en paix capable de semer l'espérance. Enfin, nous ne devons pas nous lasser de demander pardon. Nous devons sans cesse nous relever et reprendre le chemin. C'est le sens de notre vie. Cela vaut aussi pour les prêtres, les évêques et même pour le pape. Tous sont pécheurs. Et tous doivent se confesser.
Et à la fin de l'audience générale, le pape François a invité l'Assemblée à se recueillir en prière pour les victimes des intempéries qui ont durement touché la Sardaigne et à se montrer solidaire des familles des victimes et de tous les sinistrés. La veille déjà, le pape argentin avait manifesté dans un tweet et dans un télégramme sa proximité avec la population sarde éprouvée par les inondations meurtrières. La situation se normalise, mais les dégâts sont importants. La ville d'Olbia, qui a été parmi les zones les plus touchées, a proclamé ce mercredi une journée de deuil et de prière. Les obsèques des victimes ont été présidées par le substitut de la secrétaire d'État, Mgr Béchou. Saluant par ailleurs l'année internationale de la famille rurale qui sera inaugurée vendredi par les Nations Unies, le pape François a fait l'éloge de l'institution familiale, modèle de fraternité, y compris pour le monde du travail, car elle est capable de bloquer à leur naissance d'éventuels conflits sociaux. Il a ainsi souhaité que la contribution des familles à la croissance économique, sociale, culturelle et morale de toute la communauté humaine soit mise en valeur. L'économie agricole et le développement rural, a-t-il noté, peuvent compter sur les familles car elles respectent la création et sont attentive aux besoins concrets. Dans un contexte d'émigration massive des jeunes ruraux vers les villes, le Saint-Siège insiste beaucoup pour l'expérience structurante des communautés rurales. J'ajoute que parmi les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre ce mercredi, il y avait les membres de l'Alliance des directeurs et des directrices de l'enseignement chrétien de France, accompagnés de l'évêque de Quimper. Ce jeudi au Vatican, le pape François rencontrera les patriarches et archevêques majeurs des églises d'Orient qui pourront ainsi lui exposer la situation de leur communauté. Un peu plus tôt, une messe pour la paix au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Terre Sainte sera célébrée dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les églises orientales. Les souffrances endurées par les minorités chrétiennes dans ces pays inquiètent profondément l'église catholique. Je vous propose d'écouter un entretien réalisé il y a quelques jours avec un jésuite libanais, grand spécialiste de l'islam, le père Khalil Samir Khalil. Marie Duhamel l'a interrogé au sujet de l'accueil des réfugiés syriens qui est devenu une charge à la limite du supportable dans les pays voisins de la Syrie. Le père Khalil demande à l'Europe de se montrer plus généreuse.
Ce que fait l'Europe, c'est délicat comme problème politique parce qu'il est à peu près sûr que ceux qui viennent, la majorité ne retournera pas. Il n'y a plus rien là-bas, surtout dans le cas de la Syrie où il y a eu destruction. Ce n'est pas une émigration. La plupart ne reviendront pas. Ils savent d'abord que leur pays, il faudra quelques décennies pour remonter la pente, pour reconstruire tout cela. Entre-temps, la vie est brève. Ensuite, bon, je vais rentrer. Mes enfants auront vécu ici quelques années. Ils ne connaissent plus la langue, la mentalité, ils se sont intégrés. Je vais les déraciner encore une fois. Les problèmes des migrations sont tragiques. L'Europe doit essayer d'être la plus généreuse possible. Il faut sans doute qu'il y ait un budget pour la solidarité. Le monde développé, l'Europe, profite aussi de cette migration au plan économique. Et je crois, avec le temps, au plan culturel. Mais même directement, parce que tôt ou tard, ces gens travaillent. Et c'est une main-d'œuvre à très bon marché comparée avec la main-d'œuvre européenne. Donc, il n'est pas seulement charitable, il est juste de se dire on doit mettre un pourcentage de notre budget pour aider qui est récupéré par leur aide.
On a vu récemment en France, notamment près de Calais, des Syriens qui étaient dans des conditions de vie un peu très difficiles et précaires. Ils voulaient se rendre en Angleterre, ça a été très compliqué de savoir ce qu'on en faisait. Qui sont ces Syriens qui s'en vont ?
Il y a d'une part toutes les personnes qui ont perdu tout, qui peuvent être n'importe qui. Ce n'est pas ciblé. Les chrétiens, de par le fait qu'ils sont plus ouverts à l'Occident, ils ont le sentiment qu'on pourra s'y adapter, sont proportionnellement, pas en nombre absolu, plus nombreux à émigrer. Mais peu importe qui c'est des gens qui sont dans le besoin. Et le besoin, ils ne l'ont pas créé. Ce n'est pas par paresse, etc. C'est parce qu'il y a eu des guerres. L'Europe, en aidant, fait un acte de charité, mais fait aussi un acte de justice. Parce que tôt ou tard, nous sommes solidaires.
Vous insistez beaucoup sur l'accueil et sur le devoir d'accueillir, parce que c'est une richesse. Il y a aussi évidemment le drame de ceux qui s'en vont, et on sait combien le Saint-Siège est attentif et est préoccupé par justement tous ces départs de chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il y a cette préoccupation de voir des chrétiens s'en aller? Parce que d'autres vont suivre et qu'il n'y aura plus personne?
Parce que ce mouvement ne fait qu'augmenter. La proportion des chrétiens baisse d'année en année. Le fait qu'il n'y ait par exemple que 1% de chrétiens en Irak veut dire que ceux qui restent sont très fragilisés. C'est une communauté qui disparaît. C'est une culture qui va disparaître. Parfois leur langue. En tout cas, c'est un appauvrissement pour les musulmans. L'Irak sans les chrétiens, il s'en ressentira demain. D'ailleurs, il s'en ressent aujourd'hui. Il y a chaque semaine une centaine ou plusieurs centaines de victimes musulmans, d'autres musulmans. Il n'y a personne pour les protéger. Je disais au Liban, le jour où, au lieu de 35%, on arrivera à 25%, il n'est pas sûr qu'on dira on maintient la parité. Si ce phénomène continue, dans quelques dizaines d'années, s'il n'y a pratiquement plus de chrétiens, prenons le cas de la Palestine, Jérusalem et tout ça, que signifie encore le pèlerinage? Si c'est pour voir des pierres, le pèlerinage est aussi pour rencontrer les chrétiens qui vivent cette tradition de Jésus. Or, c'est en train de disparaître.
On voit bien ce qui se passe entre les frères musulmans et les coptes en Égypte, par exemple. Est-ce que les musulmans chiites ou sunnites se rendent bien compte que pour eux aussi, ça peut être une chance d'avoir des chrétiens?
Bien sûr. Et comment? Les chiites, plus fortement. Parce qu'eux aussi sont une minorité dans le monde musulman. Et ils nous disent toujours, vous et nous, nous sommes très proches parce que nous avons dû souffrir, nous, comme musulmans minoritaires, et vous, vous souffrez parce qu'eux aussi, ils sont plus spirituels. Faut le dire.
Vous m'avez dit que régulièrement des personnes venaient vous voir pour vous parler de leur désir d'émigrer. Qu'est-ce que vous leur dites?
Il y a divers aspects. Au plan personnel, je ne peux jamais dire tu as le devoir de rester. Ça, c'est sûr. Il y a la liberté de conscience. Mais je lui dis, réfléchis bien. Est-ce que ce choix est vraiment nécessaire? Je lui dis, si tu peux rester, si tu te sens la force de rester malgré les difficultés, tâche de rester pour soutenir aussi la communauté, ta propre foi, parce que je crains que, allant en Occident, tu risques toi aussi de t'attiédir. C'est-à-dire que aussi la foi s'attiédit, s'affaiblit, la solidarité se fondre dans la masse et disparaître. Et je crois que l'Orient chrétien a une mission. D'abord pour les musulmans. Dieu nous a mis là, ce n'est pas un hasard. Si je suis égyptien, je suis responsable de mes frères musulmans, de leur transmettre cette merveille qu'est l'Évangile. Et je dis à ceux qui émigrent, je dis, ok, tu as décidé d'émigrer, mais émigre avec ta foi. Et n'oublie pas que si tu vas là-bas, de nouveau, tu as une mission. Ça peut être quelques musulmans, mais aussi il y a la masse de ceux qui sont de souche chrétienne. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que la chose la plus belle que nous possédons, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la culture, c'est notre foi.
C'était le père jésuite libanais Khalil Samir Khalil. Et nous partons pour Londres où ce mercredi, le synode de l'église anglicane d'Angleterre a approuvé à une écrasante majorité le principe de l'ordination de femmes évêques. Le projet qui avait été recalé en novembre 2012 pourrait être définitivement entériné à la faveur d'un nouveau synode général en 2014. Une réforme qui avait ravivé les divisions. Il y a un an, le projet avait été avalisé par les évêques et le clergé, mais il avait achoppé sur des résistances au sein du collège des laïcs. Depuis lors, le nouvel archevêque de Canterbury, Justin Welby, a souligné la volonté de parvenir à un accord. Les nouvelles propositions présentées ce mercredi prévoient notamment la nomination d'un médiateur chargé de régler les éventuels problèmes en cas de contestation de l'autorité d'une femme évêque par le clergé. Dans ces cas-là, des mesures disciplinaires pourraient être prises. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre, UNICEF France a publié les résultats d'une enquête nationale. Entre février et juillet dernier, partout en France, 22 500 enfants et adolescents ont répondu à une centaine de questions sur leur vie quotidienne. Au final, les résultats montrent notamment que près d'un jeune sur cinq est en situation préoccupante d'exclusion sociale. Julie Zerlot-Dizik est responsable des relations avec les collectivités territoriales à UNICEF France. Elle détaille les conclusions de ce rapport.
Nous avons découvert que c'était les mêmes enfants qui cumulaient à la fois les niveaux de privation et d'extrême privation et les niveaux d'intégration sociale précaire ou très précaire. Donc ce sont bien les mêmes enfants et les mêmes adolescents qui subissent une triple ou une quadruple peine et à qui on peut attribuer à la fois un ressenti de privation très important et un manque d'intégration dans la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire une intégration insuffisante à l'école, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur collectivité, mais également une participation insuffisante à la vie de cette collectivité. Ce sont des enfants qui, globalement, ne sont pas suffisamment associés au projet, à qui on ne demande pas suffisamment leur avis, et surtout ne se sentent pas autorisés à pouvoir les donner, ces avis. Et puis ce qu'elle nous apprend aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y en a quand même une grande majorité d'entre eux qui se sent bien, qui se sent respectés, qui vit ses droits pleinement en France, donc ça c'est déjà essentiel, mais nous devons avoir un regard particulier sur la minorité, sur les 17% d'enfants qui vivent dans ces situations d'intégration sociale précaire.
Et quels facteurs peuvent expliquer le fait que ces enfants donc, subissent à la fois une intégration sociale précaire et en même temps donc, ont des soucis au niveau précarité ?
Les liens sociaux qui rattachent normalement l'enfant à sa famille, à son quartier, sont eux aussi source de profondes inégalités. Et tout ce qui pourrait raccrocher l'enfant à son bien-être, en fait, à un développement harmonieux, est également défaillant parce que l'enfant, et c'est lui qui le dit dans cette étude, se ressent non intégré alors qu'il a déjà ce ressenti très fort de privation. Et cette corrélation entre les deux, la privation et l'intégration sociale, est notamment due au fait de ne pas avoir une estime de soi suffisante pour certains, de ne pas oser frapper à la porte de certains services et surtout de ne pas avoir accès à un certain nombre de services pour des raisons monétaires, mais aussi pour des raisons parfois culturelles ou sociales, tout simplement.
Quelles seraient les actions qui seraient nécessaires pour leur permettre d'améliorer les liens sociaux ?
Ce que l'UNICEF appelle de ses voeux est la construction d'une politique globale, c'est-à-dire une politique qui envisage l'enfant dans sa totalité, je dirais, c'est un terme un peu trivial, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas être traité d'une part au moment où il fait du sport, ensuite on va s'occuper de lui avec une autre spécialité qui est la culture, puis c'est la garde, puis c'est l'éducation, etc. Donc il faut que les personnes qui réfléchissent à ces politiques publiques puissent se mettre tous ensemble et se dire l'enfant est un individu à part entière. Toute la journée, on doit le considérer dans ses besoins et ses attentes spécifiques. Ensuite, une politique publique qui place l'enfant au cœur des choix politiques. Et je pense qu'au niveau local, c'est de créer vraiment un lien de proximité réel avec l'enfant et le jeune, l'associer au projet de la collectivité. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement efficace, c'est de recréer de la mobilité, c'est-à-dire aller au-devant des familles qui sont en difficulté, aller au-devant des jeunes et des enfants qui sont en difficulté et leur proposer des services dont ils n'osent pas parfois bénéficier. La gratuité ne fait pas l'accès à un service, mais c'est en proposant ce service, en allant démontrer ce qu'il peut apporter à l'enfant, qu'on pourra aussi convaincre sa famille de pousser la porte d'une médiathèque, d'une piscine, etc. Donc tout ça fait partie de ce lien social qu'il faut recréer.
Julie Zerlot-Dizic, responsable des relations avec les collectivités territoriales à l'UNICEF France, interrogée par Audrey Radondi. Pour sa part, le Bureau international catholique de l'enfant a choisi de se concentrer jusqu'en 2015 sur la violence infligée aux enfants. Une journée de prière et d'action sur ce thème sera célébrée dimanche. À l'église Saint-Ignace à Paris, un grand témoin, Tim Guénard, proposera son regard d'espérance sur l'avenir des enfants blessés par la vie. Malgré une enfance meurtrie par l'abandon de sa mère et les coups d'une rare violence de son père, malgré une adolescence passée entre une maison de correction et la rue, Tim s'est reconstruit. Aujourd'hui marié et père de 4 enfants, Tim Guénard a fait le choix de dépasser la haine, de vivre en paix avec l'offense et de pardonner. Une quête sur la place Saint-Pierre du jamais vu depuis 10-15 ans. Dimanche prochain, à l'occasion de la messe conclusive de l'année de la foi, une collecte sera effectuée sur la place Saint-Pierre au profit des victimes du typhon Eyan aux Philippines. Avant la messe présidée par le pape François, des volontaires approcheront les fidèles sur la place Saint-Pierre. Cette somme sera remise au pape argentin qui veillera à la faire parvenir aux sinistrés. Au moins la moitié de ces sinistrés sont des pêcheurs qui ont tout perdu. Au Vatican, le Conseil pontifical pour les migrants a créé un fonds spécial à leur intention. L'argent sera utilisé mobilisés en faveur de projets à long terme. Reconstruction de logements, achat de bateaux de pêche et de filets, bourse d'études pour les enfants. Le cardinal Velio, président du dicastère qui s'occupe également de l'apostolat de la mer, a annoncé le déblocage d'une première somme de 10 000 dollars. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas de nous rejoindre également sur internet www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.